Économie et finance, une chronique de Jean-Louis Chambon sur Canal Académie.
Face au déclin, l'impérieuse nécessité d'un retour d'une culture industrielle en France. La France paraît devoir réaliser cette performance assez effrayante de prendre de la tête des pays où les entreprises sont les plus mal aimées et leurs dirigeants haïs. Comment comprendre cette dérive ? Fatalité, héritage culturel additionnant une nostalgie révolutionnaire, une idée de grandeur éternelle de plus en plus éloignée de la réalité, le tout favorisant la désignation de bouc émissaire. Sans doute y a-t-il matière à satisfaire quelques révolutionnaires attardés ou bien encore des adeptes de la lutte des classes et du grand soir. Mais c'est en réalité une blessure profonde et douloureuse que s'est infligée progressivement la société française avec des conséquences très lourdes pour son avenir. On sait combien, en effet, les particularités d'une culture influencent l'organisation de la société et plus globalement la manière dont elle se représente, le monde et la place qu'elle souhaite prendre ou conserver. Par ailleurs, l'unité, le partage des valeurs et des conduites s'expriment dans l'effort collectif visant à maîtriser des zones de crainte et de peur, conscientes ou non. De même, une perception aiguë de menace pour la survie favorise dans la société un consensus social visant à sacraliser la place de l'entreprise et à déterminer les priorités et les moyens militaires, économiques et sociaux que le politique propose à la collectivité. Ainsi, l'Allemagne et le Danemark ont développé un modèle reposant en priorité sur la performance de leurs entreprises, avec une réussite économique et sociale souvent donnée en exemple. L'Allemagne, en raison de sa tragique histoire, consciente du néant qui l'a guetté en 1945, a choisi comme moteur de sa reconstruction l'entreprise en visant un retour pacifique dans le concert des nations. Ainsi a prospéré le capitalisme rhénan, générant une synergie autour d'un même objectif et le respect mutuel des partenaires sociaux pour la performance et la qualité de l'entreprise. De même, le Danemark, petit pays sans ressources ou rente de situation, a compris que sa survie passait par la performance de ses entreprises et l'impérieuse nécessité de leur donner tous les moyens d'exprimer leur compétitivité en termes de maîtrise de leurs coûts et de souplesse dans la gestion de l'emploi, avec une responsabilité et des rôles clairement définis pour les partenaires sociaux, aux chefs d'entreprise, la stratégie et le pilotage, aux syndicats salariés, l'adaptation à la gestion de l'emploi et à l'État, le soutien de ses politiques. Ainsi, cette vision commune et un corps social qui fait de l'entreprise un allié du progrès pour tous, associé à une grande lucidité sur les menaces pesant sur la communauté, ont permis à ces deux pays, même s'ils ont aussi leur face sombre, de s'approcher de l'optimum du développement économique et social, avec des méthodes originales appuyées sur une forte représentativité des partenaires sociaux et une réelle participation à la réalisation de la compétitivité et une gestion de l'emploi performante, à la fois flexible et sécuritaire, réunies sur le vocable de la flexicurité. Ces deux pays ont montré une compréhension précoce et salutaire du fait que tout commence, la compétitivité et la croissance, et tout finit, l'emploi, dans et par l'entreprise, et que le salut dans un monde ouvert et concurrentiel passe irrémédiablement par la compétitivité des entreprises et la confiance des dirigeants reposant sur une reconnaissance et un soutien non volatiles. A contrario, la France, prétendument apaisée, s'est égarée dans des contresens qui hypothèquent son avenir et sa place dans le monde en raison d'une insuffisance de lucidité sur les risques qui pèsent sur elle et l'étrangeté de sa culture qui fait de l'entreprise la mal-aimée de la société, un héritage d'une histoire ancienne de lutte des classes, d'obsession de grandeur alliée à la cohabitation d'une société stratifiée avec un attachement viscéral pour l'égalité. Tout ceci a conduit le pays vers des logiques chaotiques d'entreprise et accéléré une forme de déclin économique associée à des tensions sociales exacerbées. Mais maintenant, nous entrons dans l'urgence. En effet, le récent rapport du groupe de Davos, s'ajoutant à la reconnaissance par le chef de l'État de l'existence d'une crise exceptionnelle, fait apparaître un effondrement de la France à la 21e place du classement mondial en raison de la fragilité de ses équilibres budgétaires, mais, et peut-être surtout, des mauvaises pratiques de recrutement et de licenciement et de ses relations employeur-employés parmi les pires de ce classement. Si, dans la précipitation et semble-t-il à contre-cœur, le discours et les postures sur l'entreprise se sont récemment infléchis et la diabolisation des dirigeants a baissé d'un ton, on n'en reste pas moins très éloigné d'un changement avéré d'une culture dans laquelle l'entreprise reste, hélas, un lieu d'exploitation des prolétaires, les actionnaires des profiteurs cupides et les dirigeants des parasites traites à la classe ouvrière. Après avoir levé le voile sur le contenu de l'effort juste, qui ressemble beaucoup à une ponction fiscale sans précédent sur les entreprises et les classes moyennes, le nouveau pouvoir appelle les partenaires sociaux, dans la perspective d'un prochain sommet social, à s'inspirer des modèles allemands ou danois pour la sauvegarde de l'emploi et la compétitivité. Cette prise de conscience mérite d'être saluée. Mais elle montre aussi que les préalables requis pour transposer efficacement les dispositifs de ces modèles dans notre pays sont loin d'être réunis et hypothèquent ainsi leurs chances de réussite. Il faudrait pour ce faire entamer une véritable révolution culturelle qui mette d'une part l'entreprise au centre d'un nouveau consensus social, la valorise et donne motivation et confiance aux dirigeants et d'autre part permette de dire et de faire entendre au corps social la réalité de la situation de la maison France. Le parfait contre-exemple de cette clé de l'avenir, c'est le déclin industriel dans lequel la France s'est enfoncée en additionnant les pertes d'emplois, plus d'1,2 million pertes d'emplois entre 1991 et 2010, des pertes de parts de marché sur la production industrielle, près de la moitié en 20 ans, on est passé de 6% à 3,3%, et un effondrement de la part de la valeur ajoutée dans la production globale. Une perte donc générale de compétitivité qui est le révélateur de ce déclin industriel, tandis que d'un côté, nous ne sommes pas compétitifs avec ceux qui produisent moins cher, comme l'Asie, l'Europe ou le Maghreb, et pas non plus compétitifs par rapport aux pays qui produisent mieux, l'Allemagne étant le parfait exemple. Tandis que les grands champions de l'ère gaulo-pompidolienne, l'automobile, l'aéronautique, restent très compétitifs au niveau international, mais ont perdu de plus en plus leur base nationale. La France est de moins en moins un pays qui exalte l'entrepreneuriat et salue la réussite. Ainsi, comme le suggère Bernard Heisenberg, ancien conseiller du président Pompidou, l'esprit de conquête est en train de s'atténuer et nous sommes de moins en moins innovants. Pendant 2 siècles, l'industrie nous a permis de mettre la science et le progrès technique au service de la connaissance et du bien-être. Jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, nous avons vécu sur cette conviction. Aujourd'hui, nous sommes en passe de la perdre. Tourner la page d'une forme d'idéologie, repenser le paritarisme et sa légitimité en tenant compte des déficits abyssaux de sa gestion, sécurité sociale, régimes spéciaux de retraite, tel est le défi. Il relève de la responsabilité du nouveau pouvoir qui les détient tous. Il demande du courage, sans doute du temps, et une détermination à l'aune desquelles se reconnaissent les hommes d'État, qui placent le destin du pays au-dessus des dogmes et des contraintes électorales et l'histoire avant le populisme. Il nous faut retrouver notre fond culturel et c'est un choix que le gouvernement doit accepter, par lequel il retrouvera les clés de l'avenir. Le changement, il faut que ce soit maintenant.